du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce numéro 703 du Coq à l'âne, où j'accueille mes coqualiens du jour. Michel Roussel, bonjour Michel.
Bonjour.
Jean-Claude Hérault.
Bonjour.
Jean-Claude Hérault. Et Bruno André, salut Bruno.
Bonjour à tous.
Et notre invité Thierry Beau, salut Thierry.
Bonjour.
Alors Thierry, conseiller municipal de Saint-Jean-Saint-Nicolas, on le sait, conseiller communautaire du Champsaur-Val-Gonnemar, et donc conseiller éducation enfance-jeunesse au cabinet du maire de Marseille. Voilà, depuis combien de temps maintenant ?
Un an et demi.
Un an et demi, très bien. Donc, alors moi je m'étais dit, ah c'est cool, on va pouvoir parler de Marseille, c'est sympa, j'avais même préparé ça. Regardez, écoutez, c'est mignon tout plein.
On connaît dans chaque hémisphère notre canne-canne-canne-pierre. Et partout, elle est populaire, notre canne-canne-canne-canne-pierre.
Bien sûr, eh oui, eh, la canne-bière, bien sûr, on voulait en parler, mais bon, visiblement, c'est un peu compliqué, puisque comme tu y travailles un petit peu, on ne peut pas aborder tous les sujets avec toi.
On va dire ça comme ça, donc, et je suis tenu à une réserve de bon aloi.
Et on le comprend, donc on va mettre ça de côté, on le ressortira un jour, dans quelques mois ou années.
Lorsque je garde ça dans mes dossiers, je fais une compile.
Alors, donc, tu
c'est quand même un peu dommage, quand même, moi je regrette un peu, parce que... Non, mais c'est vrai, c'est...
Nous, on était venus rien que pour ça.
C'est une belle expérience de participer à la gestion d'une municipalité comme Marseille.
Ah ben, ça, tu peux dire parler de ton expérience. Ça, c'est pas gênant.
Ça, c'est une belle expérience. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est quelque chose de très riche, très intense. Mais c'est une fonction, les fonctions de cabinet de manière générale, qui astreignent à la discrétion. Et qui font qu'aujourd'hui, je ne peux pas exprimer de commentaires sur des situations politiques sur lesquelles je travaille et qui pourraient être interprétées sur le débat politique local.
Non, mais c'est dommage.
Ouais, vas-y.
Ça se comprend.
D'accord, mais moi, je reste un peu sur ma faim parce que moi, je connais bien les convictions écologiques de Thierry. Et quand on voit une ville comme Marseille, le boulot qu'il y a à faire là-dessus, et le changement de mentalité qu'il y a à faire, ben ouais, j'aurais bien aimé avoir son avis là-dessus, tu vois, parce que c'est pas évident, quoi. Enfin, moi, j'étais encore. La semaine dernière, c'est trouvé que j'ai fait le Mont Puget. Tu sais, en haut des Calanques, tu as une belle vue sur Marseille,
c'est une belle ville,
c'est magnifique, il y a la mer d'un côté, tout ça. Mais quand tu vois un petit peu où est-ce qu'on en est et ce qui se passe dans cette ville, il y a du boulot, quoi.
Il y a du boulot. Je confirme et je m'arrête là.
on avait dit pas de langue de bois.
Alors, on va parler de ton ancien boulot. Puisque avant de partir sur Marseille, tu étais quand même directeur de la Petite Ours.
Oui.
Alors, ça a été un déchirement d'arrêter ça, parce que ça fait quand même quelques années que tu étais là-bas.
Ça faisait 3 ans.
Ah oui.
C'est un déchirement, oui, parce que le contexte humain de la Petite Ours est tellement extraordinaire que quand tu quittes les gens, fatalement, c'est très difficile. Après, bon, on est dans la carrière professionnelle. Il y a des opportunités. Il y avait une opportunité qui s'était ouverte à Marseille, qui était quand même assez extraordinaire pour moi du point de vue pro. Donc, j'aurais été politique, et donc j'aurais eu du mal à pas céder aux sirènes.
Ouais.
Ceci dit, je garde un œil sur ce qui se passe à la Petite Ours. J'ai été remplacé brillamment. La structure continue à bien se porter. Elle a des projets de développement. On va l'accompagner et je continue à l'accompagner là-dessus. Et c'est quelque chose, c'est un projet qui continue sa vie.
Toi, tu es sensible à ce genre de structure.
Bien sûr. Hein, la Petite Ours, c'est une structure qui a toujours été adhérente à l'UDES. Mmh. Et bien sûr qu'on suit également le travail de la Petite Ours qui est remarquable, comme beaucoup d'entreprises d'insertion d'ailleurs. Et il y a une nouvelle directrice là qui vient d'être nommée et qui était directrice d'une autre structure de l'économie sociale et solidaire. C'est une belle promotion pour elle. Et c'est une jeune dame, bon, elle commence, oui, c'est une jeune dame encore, qui a beaucoup de compétences. Et je pense que la Petite Ours est entre très bonnes mains.
Très bien. Voilà, un petit mot au passage donc sur cette petite ours. Alors, on va passer en revue un petit peu l'actualité de la semaine. Évidemment, l'allocution du président Emmanuel Macron, 3e dose de vaccin obligatoire pour les plus de 65 ans à partir du 15 décembre pour pouvoir conserver le pass sanitaire. Bah, je voulais seulement vous poser la question, pour ou contre, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il fallait passer par là? Votre avis sur la question, on va commencer par toi Thierry.
Oh ben, moi j'ai plein d'avis.
Approche bien ton micro.
Plein d'avis sur beaucoup de choses.
Alors regarde.
Ce qui est le propre du politique, c'est d'avoir beaucoup d'avis sur beaucoup de choses. Sur celle-là, j'aurais du mal quand même à exprimer quelque chose de très tranché.
Uh-huh.
Après, il y a des médecins, il y a un un corpus scientifique qui accompagne le président de la République. Est-ce qu'il faut réellement vacciner, faire une troisième dose? S'il faut le faire, on le fera. Je crois qu'il ne faut pas rentrer toujours systématiquement dans des polémiques sur des questions très techniques.
Moi, si vous avez un avis, allez-y, hein, c'est le moment.
Moi, j'ai fait mon rappel.
Tu as fait le troisième?
Moi, c'est pas le troisième, c'est le deuxième. Parce que c'est un peu compliqué. Quand tu as eu la Covid, oui, tu en fais qu'un.
Comme moi,
donc,
pareil.
Donc, j'ai fait mon rappel le 10 novembre. Bon, là, pareil, moi, je dirais la même réponse que Thierry. Je fais confiance aux scientifiques. Je sais qu'il y a dans mon entourage des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Bon, il y a un nouveau vaccin qui est en train de sortir, qui n'est pas ARN messager, qui est un vaccin classique. Il est français, je ne sais plus.
Comme l'AstraZeneca.
Mais un peu mieux, semble-t-il, avec de meilleurs résultats. Peut-être que ça va permettre de décider certaines personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner avec l'ARN. Bon, cette fois-ci, se faire vacciner avec celui-là de vaccin. Enfin, c'est ce que je souhaite. Parce que malheureusement, on n'a pas d'autre solution que le vaccin. Pour l'instant, les traitements, on nous en annonce un, il n'est pas confirmé, on verra bien. Même le président en a parlé d'ailleurs, de ce traitement-là, qui devrait sortir au 1er janvier. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment assez de recul pour savoir si ça sera efficace. Donc malheureusement, aujourd'hui, à part les gestes barrières et, le vaccin, c'est tout ce qu'on a.
Moi, j'y crois un peu moyen sur le fait de savoir si ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner vont finir par se faire vacciner. Moi, je pense que c'est peine perdue. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Michel, Bruno.
Ceux qui veulent avoir une vie sociale franchiront le cap, puisque avec le pass qui va donc a priori être prolongé jusqu'au mois de juillet, je pense que ceux, une fois de plus, qui veulent à nouveau avoir une vie un peu normale seront franchiront le cap. Pour la troisième dose, moi, comme ça a été dit, je me conformerai à la réglementation et aux prescriptions qui seront dans l'intérêt de tous et notamment dans l'intérêt de l'hôpital, parce que si on nous vaccine, c'est pas tant que pour nous que c'est surtout pour dégorger effectivement les hôpitaux et pour laisser peut-être ceux qui en ont véritablement besoin. Donc moi, j'ai plus de 65 ans, je m'exécuterai en temps et en heure, puisque je dépasserai les 6 mois au mois de janvier, donc au mois de janvier, je me ferai vacciner. Après,
Bruno,
les conséquences, j'en sais rien.
Moi, sur l'allocution du président, bon, je trouve pas idiot de protéger la population la plus à risque, les plus de 65 ans, en rendant le vaccin obligatoire. Bon, ce qui m'embête vraiment, et puis vous le savez, mes convictions sur la vaccination, sur ce dossier-là, elles sont un peu...
On connaît ta position.
Contradictoire des votes, mais moi je suis vraiment contre la vaccination des jeunes et je reconnais quand même l'efficacité, une partie d'efficacité sur le vaccin. Ce que j'avais peur, c'est que bon, on soit obligé de tous les 6 mois de revenir sur une vaccination, c'est ce qui risque de se passer. J'ai entendu aussi que le président disait qu'on allait avoir des traitements, que ça allait arriver, qu'on allait mieux connaître cette maladie et tout. Je pense que ça serait bien. Voilà, et après, moi je vais finir par me faire vacciner, c'est sûr, parce que bon.
Restons sur le pass sanitaire, Thierry.
Le pass sanitaire, c'est différent.
J'allais dire, moi j'ai un petit bémol à ce que je disais tout à l'heure. C'est autant, j'ai pas de questions sur le fait de vacciner.
Mais sur le pass sanitaire.
Par contre, sur la liberté de laisser aux gens de faire ou de ne pas faire et sur l'application du pass sanitaire, ça pose, à mon sens, un problème de liberté publique qui convient de réinterroger régulièrement.
Ouais.
On vient de le dire, l'objectif était de désengorger les hôpitaux. Pour autant, aujourd'hui, par exemple, je ne vois pas d'engorgement des hôpitaux.
Pour l'instant.
Dans les chiffres. Cette marche en avant forcée et ce fusil qu'on met dans les reins d'un certain nombre de personnes, moi ça m'interroge. Je ne dis pas que j'ai la réponse, mais ça m'interroge en ce sens où on peut aussi se poser la question de la liberté publique dans ce contexte-là.
Alors, on va rester, on approche de la saison hivernale, vous le savez, donc on va rester un peu sur le pass sanitaire. On nous promet qu'il ne sera pas obligatoire pour les remontées mécaniques. Alors, le Premier ministre a expliqué donc que si le seuil national de 200 cas pour 100 000 habitants était franchi, eh ben on pourrait pas s'en passer. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est à 90 pour 100 000 la semaine dernière au niveau national. Hein, je parle pas par région. Hein, c'est
un chiffre en dessous, nous.
Un chiffre global. Ouais. La semaine dernière, on était à 62. Donc, on sent bien qu'il y a une poussée. Le taux d'incidence donc augmente en France. Et c'est rien par rapport à l'Europe. Et ça peut faire peur. Parce que ça peut effectivement commencer à arriver. En Autriche, j'ai relevé qu'il y a un Land qui est à 1200 pour 100 000 habitants. En Cologne, en Allemagne, on est à 800 sur la ville pour 100 000. La Bulgarie, la Roumanie, encore la Croatie et la Slovaquie affichent elles aussi des taux d'incidence supérieurs à 500 cas pour 100 000 habitants. Alors, le sud de l'Europe, aujourd'hui, est encore un peu épargné. mais on sent que ça peut arriver. Donc, est-ce que vous êtes confiant pour cet hiver, pour les remontées mécaniques? Est-ce que on pourra aller skier sans passe sanitaire si on continue sur ce rythme-là?
Skier sans passe sanitaire, pour moi, le problème du passe sanitaire, c'est pas le ski, c'est pas la descente, c'est la montée.
Oui, on est d'accord.
Leur problème, c'est les files d'attente.
Oui.
Que le... Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi une activité de plein air entraînerait un risque. Aujourd'hui, on a des situations, des regroupements, des fêtes, des manifestations où on n'exige plus le pass sanitaire parce que c'est en plein air, ou on ne demande pas le masque parce que c'est en plein air, éventuellement en exigeant à ce moment-là le pass. Mais sur l'activité ski ou sur les activités de montagne en général, j'ai du mal à percevoir.
Alors,
il y a un phénomène de foule dans les stations, il y a peut-être des procédures à mettre en place, peut-être le port du masque dans les files d'attente, etc. Mais, et puis après, se pose la question du contrôle. Comment on contrôle ça? Qui va venir au pied du téléski? Ça veut dire que je montre mon passe sanitaire au perchman?
Non.
De toute façon, on sait
très
bien aujourd'hui que les gens s'échangent les passes, qu'on a tous des QR codes et que les QR codes circulent. Donc, il va falloir faire des contrôles d'identité. Les agents des pistes pourront pas le faire. Les forces de l'ordre sont incapables de gérer ça. Le président de la République, dans son allocution, dit on va renforcer les contrôles. Avec quoi? La nuit, il y a deux agents de police pour toute la ville de Gap et deux gendarmes pour le Champsaur, la Batineuve et la Solse. Il va contrôler quoi? Il va contrôler que dalle. Donc, c'est encore une mesure d'affichage. Il faudrait pas qu'elle vienne en collision. En plus, un moment de réservation important pour nous, avec les enjeux économiques majeurs pour les vallées, avec une saison blanche l'année dernière, pour un effet d'annonce, pour calmer peut-être un certain nombre de personnes qui poussent sur la roue sur la question de sanitaire, et qu'une fois de plus, ce soit les vallées, les stations et les travailleurs qui payent la facture.
Il y a un autre problème, c'est que pour les saisonniers, vous savez que les employeurs, y compris des remontées mécaniques et services des pistes, ont du mal à recruter des saisonniers cet hiver.
Eh oui.
Bon, après, on pourra en parler. Moi, j'ai mon petit avis là-dessus. Mais il n'empêche que si jamais on dépassait les 200, à ce moment-là, on va exiger le pass sanitaire, mais pas uniquement pour les touristes, mais aussi pour les salariés saisonniers. Il y a une partie des salariés saisonniers qui veulent, comme d'autres, qui veulent pas se faire vacciner. Comment on va faire? Déjà, qu'il nous en manque pour cet hiver. Si en plus, on déclenche le processus, il va manquer du personnel pour cet hiver, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. Comment ça va fonctionner? Moi, ce matin, j'ai publié sur Facebook des chiffres. C'est pas moi qui les ai inventés. C'est l'Agence de développement économique et touristique qui les a publiés. Je voudrais vous les livrer parce que c'est des chiffres qui nous posent. Alors, je sais que Thierry est très attaché. Problème écologique, j'imagine qu'on va aborder ce qui se passe à Glasgow et compagnie. L'industrie du ski dans le département emploie près de 12 000 personnes et totalise près de 30% de l'emploi des Hautes-Alpes. Ces 27 stations de ski génèrent au total 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit deux tiers du produit touristique.
Oui, ça on le sait.
Donc, moi je me pose deux questions. Cet hiver, immédiatement, comment on fait si on exige le pass sanitaire? Comment on fait fonctionner des stations s'il nous manque du personnel? Et puis, une autre question qui est plus à court et moyen terme, à long terme, c'est quand est-ce qu'on se met autour de la table pour parler de l'avenir de l'industrie du ski dans les Hautes-Alpes avec le réchauffement climatique?
Ça, c'est un autre sujet. Là, on était sur, effectivement, le pass qui
c'est
pourrait...
C'est vrai, t'as raison, mais c'est
qui,
pour montrer le poids que ça représente.
Qui pourrait être demandé. Donc, si on se dit, en vous écoutant, il ne faut pas présenter le pass, donc il faut laisser à volo, quoi. C'est-à-dire qu'on...
Mais Thierry a tout à fait raison. On est sur une activité de plein air. Donc, il y a, à mon avis, sur la remontée des pistes et la descente, il n'y a aucun risque. Comme il disait Thierry, le risque, il est sur les files d'attente. On peut faire de la distanciation sociale sur les files d'attente, on sait faire. On peut condamner, par exemple, les cabines, sauf pour les enfants, parce que c'est une sécurité pour les cabines fermées. Mais autrement, je ne vois pas pourquoi on interdirait ou on imposerait le pass sanitaire sur les stations de ski. C'est une aberration. Le problème, il est peut-être... C'est l'après-ski qui pose problème.
Oui.
C'est les restaurants, les bars, c'est pour ça qu'ils ont fermé les stations l'année dernière. C'est pas pour le ski. Faut pas me la raconter. On peut pas m'expliquer un moment on n'est pas obligé d'avoir le pass sanitaire pour aller à un meeting politique et puis qu'on peut l'exiger sur une station de ski. C'est une connerie.
Cela dit, les meetings en ce moment, il y a le pass qui est demandé.
C'est pas ce qu'il avait l'air de dire à un moment donné sur la présidentielle.
Oui, mais là je te parle dans ce moment. Après, ce moment, peut-être que ça va évoluer.
C'est bien pour ça que ça pose cette question du pass sanitaire pose plus une question de liberté publique qu'une question sanitaire. C'est pourquoi on dit il faut s'interroger sur la présence du pass sanitaire pour les meetings. C'est parce que l'enjeu démocratique et l'enjeu citoyen y est supérieur à n'importe quel autre enjeu et qu'on doit laisser le débat républicain s'installer normalement dans le cadre d'une campagne électorale. C'est pas un privilège qu'on donne aux politiques. C'est parce qu'on se dit cette question-là est importante. On pourrait pas dire à quelqu'un tu n'as pas le pass sanitaire donc tu ne pourras pas aller voter par exemple et conditionner l'accès des bureaux de vote à l'obtention du pass sanitaire.
Ce qui était le cas d'ailleurs de l'Assemblée nationale où les députés
C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu l'imposer. Et il faut qu'on trouve des solutions intelligentes. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui on est dans un contexte préélectoral qui nuit globalement aux solutions intelligentes.
Ça fait moment quand même.
En période préélectorale, on a tendance à écarter les débats intelligents et à rentrer dans des questions très subsidiaires mais très polémiques. Aujourd'hui, quelles limites on met à nos libertés publiques? Quelles contraintes on se donne collectivement pour lutter contre la pandémie et comment, à moyen terme, on sort de ces contraintes-là pour avoir une qualité de vie sociale et préserver nos outils économiques. Sinon, on va aller au casse-pipe.